Le président américain Donald Trump a déclaré que Washington allait, je cite, « mettre une sacrée raclée à l'Iran » en réponse aux attaques menées cette nuit par Téhéran contre des cibles américaines dans la région. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est entretenu en tête-à-tête avec le vice-président américain J.D. Vance. C'était hier soir à la Blair House, selon plusieurs médias hébreux. Guerre en Ukraine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky en visite à Washington a affirmé dans une interview à la chaîne américaine Fox News que l'initiative n'était plus entre les mains de Vladimir Poutine. Et enfin, face aux incendies qui frappent la Gironde, la Belgique a déployé un important dispositif d'aide pour soutenir les secours français après l'annonce du ministre de la Défense, Théo Franken. Et on commence avec évidemment cette actualité au Moyen-Orient. Le président américain Donald Trump a déclaré que Washington allait mettre, je cite, une sacrée raclée à l'Iran en réponse aux attaques menées cette nuit par Téhéran contre des cibles américaines dans la région. Nous allons les frapper très fort, ils vont en prendre pour leur grade, a déclaré Donald Trump à Fox News lors d'un entretien téléphonique. Donald Trump qui a qualifié la frappe iranienne visant les forces américaines en Jordanie d'attaque surprise au cours de laquelle les soldats n'ont eu que quelques minutes pour abattre les missiles ennemis. Commentant les frappes américano-saoudiennes contre des milices pro-iraniennes en Irak, Donald Trump a précisé qu'elles ont été coordonnées avec le gouvernement irakien et qualifie ces milices pro-iraniennes de cancer pour le monde. Malgré l'escalade apparente avec l'Iran, Donald Trump a affirmé qu'il va autoriser ses négociateurs à poursuivre les pourparlers avec l'Iran. Interrogé sur sa rencontre avec le premier ministre Benjamin Netanyahou, Donald Trump a réitéré qu'elle s'est très bien déroulée, ajoutant que le chef du gouvernement israélien comprend désormais, je cite, sans préciser ce qu'il entendait par là. Et puis, on réagit également du côté iranien. On parle du détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz ne retrouvera pas son statut antérieur. C'est ce qu'a déclaré un haut responsable parlementaire iranien. S'adressant à l'agence de presse des étudiants iraniens, le vice-président du parlement Ali Nikzad a souligné qu'Ormuz appartenait à l'Iran. Nous considérons ce détroit comme un acquis de la guerre qui nous a récemment été imposé et comme un don divin à la grande nation iranienne, c'est ce qu'a déclaré Ali Nikzad, ajoutant que Téhéran ne renoncerait pas à faire valoir ses droits sur Hormuz, je cite. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est entretenu en tête-à-tête hier avec le vice-président américain J.D. Vance à la Blair House. Il devrait rencontrer le secrétaire à la défense Pete Hegseth dans la journée d'aujourd'hui. J.D. Vance s'est récemment montré ouvertement critique envers l'État hébreu, accusant notamment le gouvernement de Benjamin Netanyahou de tenter de saper les négociations entre les États-Unis et l'Iran et allant jusqu'à avancer des théories du complot sur des liens entre les services de renseignement israéliens et le délinquant sexuel qui est mort maintenant, Jeffrey Epstein. J.D. Vance, qui était également présent hier matin lors de la rencontre entre Benjamin Netanyahou et le président américain Donald Trump au bureau ovale. Le commandement du CENTCOM, l'amiral Brad Cooper, a mis en garde les soldats américains contre la publication de vidéos prises avec leur téléphone, estimant qu'elles permettent à l'Iran d'évaluer en temps réel l'efficacité de ses frappes contre les bases américaines au Moyen-Orient. Dans une lettre datée du 28 juillet, hier donc, une lettre obtenue par Reuters, l'officier affirme que les autorités iraniennes exploitent les images, photos et témoignages diffusés sur les réseaux sociaux ou relayés par les médias pour déterminer si leurs missiles et drones ont atteint leurs objectifs. Le coût direct et inévitable de ce renseignement en source ouverte pourrait se mesurer en vie de militaires américains et de civils dans les pays du Golfe visés. C'est ce qu'écrit l'amiral Brad Cooper, qui appelle les troupes à renforcer leur discipline en matière de sécurité opérationnelle. Un civil israélien ayant précédemment servi dans l'armée au sein d'une unité secrète a été arrêté et inculpé d'espionnage au profit de l'Iran, c'est ce qu'ont annoncé les autorités israéliennes. Dans un communiqué conjoint, la police israélienne, le ministère de la Défense et le Shin Bet indiquent que cet homme a été inculpé le 16 juillet devant le tribunal de district de Tel Aviv pour contact avec un agent étranger et tentative de transmission d'informations au profil de l'ennemi. L'enquête a révélé que cet homme, qui avait servi dans cette unité secrète tant pendant son service obligatoire que dans la réserve, était en contact avec une personne qui s'est présentée comme un agent des services de renseignement iranien, je cite. Le communiqué précise qu'à un moment donné, le suspect a également été sollicité pour aider au recrutement d'un soldat afin d'établir le contact avec ses agents iraniens. L'armée israélienne a confirmé aujourd'hui qu'un véhicule de génie sans pilote a été touché cette nuit par un drone explosif du Hezbollah dans la région de la crête d'Ali Taher au sud du Liban dans les zones tampons de Tsahal. Cette attaque contre le bulldozer blindé est la première depuis l'entrée en vigueur de l'accord cadre entre Israël et le Liban fin juin, n'a fait aucun blessé selon l'armée. Il s'agit là d'une violation flagrante de l'accord de cessez le feu au Liban par l'organisation terroriste du Hezbollah, c'est ce qu'a déclaré l'armée israélienne. Selon des responsables de la sécurité, l'État hébreu examine actuellement une réponse à cette violation du cessez-le-feu. La police israélienne mène aujourd'hui une vaste opération à Ra'at et dans d'autres zones bédouines, du sud d'Israël dans le cadre d'une campagne visant à lutter contre le crime organisé dans la région. Cette opération à laquelle participent des centaines de policiers et de fonctionnaires d'agences civiles chargés de l'application de la loi a pour objectif de couper les sources de revenus des acteurs criminels, de renforcer la gouvernance et d'améliorer la sécurité publique à Ra'at et dans ses environs selon la police. Cette opération intervient plusieurs mois après la publication d'un rapport du contrôleur général de l'État, un rapport qui révèle que dans le sud d'Israël, on subit une forte recrudescence dans ces cas d'extorsion, notamment sous la forme de raquettes de protection dans lesquelles des criminels menacent les commerçants de violence et les font chanter pour qu'ils paient des services de sécurité gérés par des gangs. Réseaux sociaux à présent, TikTok annonce avoir mis en place un groupe de travail dédié aux élections israéliennes afin de lutter contre la désinformation, les manœuvres trompeuses générées par l'IA et d'autres formes d'abus sur la plateforme susceptibles d'influencer les électeurs ou de perturber le scrutin national du 27 octobre. Selon l'entreprise, ce groupe de travail rassemble des experts issus des domaines de la politique, de la cybersécurité, des comportements trompeurs, du renseignement sur les menaces des élections et de l'intégrité civile. Je cite, l'entreprise annonce également le lancement d'un centre électoral intégré à l'application, un centre qui va s'appuyer sur les informations fournies par la Commission électorale centrale d'Israël qui permettra aux utilisateurs d'accéder à des informations fiables sur les procédures de vote, les dates des élections et d'autres détails essentiels ainsi qu'à des conseils pour repérer la désinformation. L'entreprise réaffirme ses politiques mondiales existantes concernant la désinformation liées aux élections et à d'autres formes de manipulation de la plateforme, précisant qu'elle supprime les contenus, y compris ceux générés par l'IA, susceptibles d'induire les électeurs en erreur, d'empêcher les personnes de voter ou d'influencer les résultats électoraux. L'Iran a envisagé de lancer un missile balistique contre un port ukrainien en mer Noire en représailles à une frappe menée par Kiev contre un navire iranien en mer Caspienne avant d'abandonner ce projet à la suite d'intenses discussions diplomatiques. C'est ce que rapporte le New York Times qui cite des responsables iraniens et occidentaux selon le quotidien américain. Téhéran envisagerait de tirer un missile équipé d'une faible charge explosive afin d'envoyer un signal de fermeté. Une telle attaque aurait constitué une escalade majeure et risqué d'ouvrir un nouveau front dans le conflit compte tenu de l'alliance entre l'Iran et la Russie. Guerre en Ukraine, justement. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, en visite à Washington, a affirmé dans une interview sur la chaîne américaine Fox News que l'initiative n'était plus entre les mains de Vladimir Poutine la guerre en Ukraine. Poutine perd 30 000 de ses soldats par mois. C'est beaucoup de pertes, mais il ne veut pas arrêter cette guerre. C'est ce qu'a affirmé le président ukrainien sur la chaîne américaine. Le secrétaire adjoint du Conseil de sécurité russe, Dmitri Medvedev, avait rejeté hier dans une vidéo partagée sur le réseau social Telegram, tout nouvel appel massif à la mobilisation comme avancé par l'Ukraine. Il a en outre avancé le nombre de 200 000 volontaires engagés dans les forces armées au premier semestre. Nous demandons d'arrêter cette guerre chaque jour au minimum pour négocier un cessez-le-feu pour une certaine période et donner la possibilité aux diplomates de négocier. Mais Poutine ne le veut pas. C'est pourquoi nous devons répondre, être durs, être forts. Pas seulement nous, nous comptons sur les sanctions, a encore soutenu le président ukrainien. Sanctions, justement, la préparation d'un 22e paquet de sanctions européennes contre la Russie est en cours au sein du Service européen pour l'action extérieure. L'UE a pour intention de sanctionner pas moins de 1600 entreprises pour leur soutien à la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine. Il s'agirait alors du plus important nombre d'entités ajoutées en une fois aux sanctions. C'est ce qu'indique l'agence Bloomberg. Les entreprises du Service européen pour l'action extérieure proposent de viser totalise un chiffre d'affaires annuel de plus de 20 milliards d'euros et emploie plus de 265 000 personnes. En cas d'approbation du paquet tel quel, le nombre d'entités sanctionnées par l'Union européenne en lien avec la guerre en Ukraine bondirait de 50%. Du côté de la Maison Blanche, par la voix de sa porte-parole Caroline Leavitt, on qualifie la rencontre entre Vladimir Poutine et entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump de positive et productive. Au Royaume-Uni maintenant, un militant pro-palestinien de 30 ans appelé Daniel Day a été condamné par la justice britannique à 14 mois de prison avec sursis pendant 2 ans pour avoir escaladé pieds nus la tour Elizabeth, le Big Ben, et y être resté perché pendant 17 heures avec un drapeau palestinien. Selon le tribunal de Southwark, son action menée le 8 mars 2025 et diffusée en direct sur Instagram a entraîné un vaste dispositif de sécurité et coûté environ 92 000 livres sterling aux finances publiques. Le juge Tony Baumgartner a estimé que cette manifestation avait été soigneusement préparée. Il a rappelé que les convictions personnelles ne permettent pas de s'affranchir des lois, je cite. Et enfin, on termine avec cette information face aux incendies qui frappent la Gironde en France. La Belgique a annoncé déployer un important dispositif d'aide pour soutenir les secours français. C'est l'annonce du ministre de la Défense, Théo Franken. Les incendies se poursuivent en France, bien que la situation commence à se stabiliser. Afin d'aider nos voisins, la Belgique va envoyer un important dispositif d'aide vers Bordeaux, selon le ministre de la Défense, Théo Franken. Le ministre précise que des véhicules d'incendie Panther avec équipage et des camions de ravitaillement en eau ont décollé à midi aujourd'hui en direction de Bordeaux. Rappelons que cet incendie a ravagé 42 000 hectares en une semaine, provoquant l'évacuation de centaines de milliers de personnes. Emmanuel Macron a tweeté « Merci la Belgique » en réponse à cette annonce.